écoutez, moi je me suis déjà exprimé sur ce sujet pas plus tard que la semaine dernière. L'événement cette semaine, c'est pas l'avenir de Monsieur Woerth. L'événement cette semaine, c'est le niveau de mobilisation et ce qui va se passer sur l'avenir des retraites. Et pour moi, en tant que responsable syndical, c'est beaucoup plus important.
Mais c'est Éric Woerth qui donnera ensuite la réponse du gouvernement à ce qui se sera passé dans la
rue. C'est Éric Woerth qui, comme tous les ministres du gouvernement actuel, sera un intermédiaire entre le président de la République et le reste du peuple.
Thomas Legrand.
Juste pour savoir comment ça marche, avec qui vous êtes en contact plutôt? Avec Éric Woerth ou avec Raymond Soubi à l'Élysée?
Il n'y a pas de contact avec Éric Woerth, il y a des contacts très en pointillé, je dirais, et sans qu'on puisse aborder le fond de l'affaire avec le conseiller social.
Donc déjà, vous dites que c'est l'Élysée, de toute façon, qui mène la...
Oui, mais depuis le début, et ça, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de Français qui en doute.
Et qu'est-ce qu'il vous dirait, mon souvenir?
Philippe Lafayette.
Vous donne des détails quand même sur les avancées pour faire le gouvernement?
Non, non, ça n'est pas un contact de nature à dire, par exemple, qu'il y a un dialogue et encore moins une négociation sur le sujet.
Il
y a un échange sur la situation et le climat, pas plus.
Un échange de vues.
Bon.
01 45 24 7000, c'est le standard d'Inter. Alain nous appelle du Languedoc. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue sur Inter. Bernard Thibault vous écoute.
Bonjour messieurs. Oui, j'aurais souhaité poser une question à monsieur Thibault. Voilà très simplement mon cas personnel. Je suis médecin, chercheur, j'ai 67 ans. J'ai été mis à la retraite il y a un an contre mon gré et j'aurais souhaité rester plus longtemps. Je vais partir à l'étranger pour pouvoir continuer à travailler. Alors la question que je voulais poser à monsieur Thibault, est-ce qu'il est favorable à une souplesse qui permette à ceux qui souhaitent de partir tôt et à ceux qui souhaitent de partir plus tard quand ils en ont envie vraiment?
Bernard Thibault.
Écoutez, je rappelle que, et je crois pouvoir le dire, c'est la position de tous les syndicats. Ce que nous revendiquons, c'est le maintien d'un droit au départ à 60 ans. C'est pas une obligation de cesser son activité professionnelle à 60 ans. Alors le tout étant bien sûr de parvenir à négocier les conditions dans lesquelles on exerce ce droit. S'il s'agit de pouvoir partir à 60 ans, mais avec une pension très très faible, c'est un droit qui devient virtuel. Or là, ce qui va se produire, c'est qu'on va reculer l'âge où on ouvre ce droit au départ. On reculerait ce droit, donc à 62 ans. Mais en plus, vu les paramètres qui seront modifiés, la durée de cotisation qui va augmenter, dans la mesure où ces paramètres seront de plus en plus difficiles à obtenir par la plupart des salariés, période de chômage et précarité oblige, la conséquence, c'est une baisse des pensions.
Ce que dément le gouvernement, hein.
Parce qu'on ne change pas le calcul, effectivement. Vous dites que ça sera plus dur de faire 42 ans, mais le calcul n'est pas changé.
Déjà aujourd'hui, ce dont on peut s'apercevoir, et il y a de plus en plus de Français qui en font le constat, même si les syndicats en 2003 l'avaient dit, le fait, par exemple, de retenir les 25 meilleures années de référence pour calculer son droit à la retraite,
ça, c'est
et
la
non
réforme
plus...
Balladur.
Oui, mais on ne peut pas non plus... examiner les conséquences d'une réforme en faisant l'impasse sur les effets des réformes antérieures. Donc on sait ce que ça veut dire d'allonger, de modifier les paramètres pour calculer les droits à pension. Et non plus les 10 meilleures années, tout comme l'indexation des retraites, non plus sur l'évolution du salaire ouvrier moyen, mais sur l'évolution des prix, fait baisser le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport du niveau des retraites par rapport au salaire d'activité de 20% par rapport à la période antérieure. Et donc... il va y avoir une baisse des pensions. Nous l'avons démontré avec de multiples cas dans nos campagnes. Et lorsqu'on met les chiffres sur la table, on va s'approcher de 54% de taux de remplacement en moyenne. On va avoir une baisse de 20 à 25% au fil des ans. Alors naturellement, ce sont des projections à 20, 30, 40 ans, mais on est bien obligé de...
Et vous postulez qu'on n'arrive pas à cotiser suffisamment. Ça, c'est votre postulat de base.
Mais la question des ressources, elle est posée. Et notre problème, ça n'est pas... Il y a un problème d'ordre démographique, en ce sens où il va y avoir en France une population de plus de 60 ans qui va augmenter. Le vrai sujet, la vraie discussion, la vraie négociation aurait dû, depuis le début de cette affaire, consister à dire que faisons-nous pour réunir des moyens financiers plus importants pour une population qui va augmenter. Le chef de l'État a décrété que ça, ce débat-là était impossible, il fallait décréter des économies. Mais ne pas discuter de ressources nouvelles. On nous dit que le rapport, il y a une difficulté en France, et c'est vrai, du rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Mais regardons ce qu'on fait déjà pour augmenter le nombre d'actifs. On est le pays européen où les jeunes commencent à travailler le plus tardivement. Ils sont embauchés. J'aurais bien aimé d'ailleurs que le MEDEF, en université d'été, plutôt que de philosopher sur l'avenir de la planète, s'intéresse au sort des jeunes. Pourquoi c'est en France ?
C'est important la planète aussi.
Oui, très bien, très bien. Mais le patronat a aussi des devoirs dans cette situation.
Et alors pour les jeunes ?
On l'entend pas beaucoup, vous l'avez remarqué, le patronat, il est plutôt satisfait. C'est sa revendication de reculer l'âge de départ en retraite. On a cette spécificité en France d'être le pays européen où les jeunes commencent à travailler le plus tardivement. Entre parenthèses, reculer de 2 ans l'âge de départ en retraite pour ceux qui sont au travail, ça a comme conséquence de bloquer 1 million d'emplois pour les jeunes, toujours assumés par les retraitables. Et alors, nous sommes aussi le pays européen où on licencie les plus de 50 ans.
Sur ce sujet, Bernard
Thibault, il y a naturellement un problème de rapport entre les actifs et les retraités.
Je voudrais vous lire une fiche d'auditeur, il est peut-être en ligne, mais on le verra plus tard. « Mon patron me pousse dehors », dit Marc, qui nous appelle de PACA, « pour mettre à ma place des jeunes qui coûteront moins cher, ce qui diminuera ma pension de retraite. Moi, j'aurais bien travaillé 2 ans de plus. »
Ça marche dans l'autre sens, alors.
Et quand le gouvernement dit...
Ça marche dans les deux sens.
Il faudra travailler plus longtemps à une population déjà de plus de 50 ans. Avez-vous remarqué que dans les dernières statistiques du chômage, dont le gouvernement se félicite, alors que ces statistiques sont loin d'être, positives, une des catégories où le chômage continue de progresser, c'est les plus de 50 ans. Au même moment où le gouvernement nous dit « Vous allez devoir rester au travail plus longtemps. » Pour ceux qui parviennent à conserver un emploi.
Alors on va retourner.
Donc la conséquence, pardonnez-moi, juste un mot, conséquence de cela... C'est comme vous ne restez pas au travail et que vous avez un certain nombre d'annuités à réunir, une fois passée la période d'indemnisation du chômage, ceux-là tomberont dans les minima sociaux, tout simplement.
Le standard de France Inter, 01 45 24 7000 pour vos questions à Bernard Thibault. Alain nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Monsieur Thibault, bonjour France Inter. Alors moi, en fait, il y a une chose que j'ai les éléments de réponse, c'est l'espérance de vie au moment où on avait la retraite. C'est très simple. En 1960, né en 60, on avait une espérance de vie de 67 ans. Je passe sur les virgules. Né en 2007, j'ai 77,6 ans. Ça va augmenter. Donc, ça fait 10 ans de plus sur cette période. Et c'est en le 1er avril 83 qu'on a voté les 60 ans, si je ne m'abuse. Hein. Bon. Donc, pourquoi là, on parle de 2 ans? Pourquoi il y a une sorte de doctrine, de dogmatisme? Vous avez dit, c'est un droit qu'on défend de prendre avant ou après. Mais ça me paraît quand même un peu dogmatique, votre position, Monsieur Thibault, si je puis me permettre. Quant à la pénibilité qui raccourcirait la vie, c'est vrai, mais on n'est pas en mode binaire. Il y a des gens qui bousillent la santé avec l'alcool, avec le tabac, avec tout un tas de choses. Ils se réduisent d'eux-mêmes et il n'y a pas besoin du boulot. Je ne dis pas que le boulot ne le fait pas. Quant à toucher au bouclier fiscal, là aussi on n'est pas dans le binaire. Il faut le faire, mais il faut toucher aux retraites. Qu'on sorte un peu du dogmatisme, mais alors des deux côtés, ça serait bien, parce que moi, ça ne me convainc pas du tout et je pense que je ne suis pas le seul.
Ouais. Merci Alain. Dogmatique, dit Alain. Dogme, c'est aussi un mot qui avait été utilisé par Dominique Strauss-Kahn, mais c'est une parenthèse. Bernard Thibault.
Oui, on peut... Moi, je parlerais plutôt de convictions, d'arguments, d'approches différentes. Acceptons que dans une démocratie, il puisse y avoir plusieurs points de vue pour résoudre un problème qui est posé à la société.
Bon, sur l'espérance de vie, alors.
L'espérance de vie, s'agissant des métiers pénibles, elle est statistiquement inférieure de 7 années aux autres.
Oui, 7 années. Elle a alors, quand même augmenté. Est-ce qu'elle a augmenté ?
Bien sûr, et heureusement.
Est-ce qu'il faut le prendre en compte et comment ?
Mais attendez, là aussi, cette approche qui consiste à dire on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Mais à ce moment-là, c'est même pas la peine d'avoir une disposition retraite. On fait comme pour 90% des salariés au monde, il n'y a pas de retraite. Et quand j'entends le président de la République dans une entreprise, pour justifier sa réforme la semaine dernière, dire à des salariés français « Mais si on ne touche pas aux règles en matière de retraite, si on ne fait pas des économies sur vos droits, vous ne serez plus compétitif avec les Chinois, les Coréens. » C'est ça la société de demain, c'est d'être compétitif sur le plan social avec ceux qui n'ont pas de droits sociaux.
Sans tomber jusqu'à cet extrême, est-ce qu'il faut prendre d'une façon...
C'est pas un extrême, c'est les paroles du président
non,
de la République.
Non, mais de dire « supprimons la retraite pendant qu'on y est ». Est-ce que il faut prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie et de quelle façon il faut la prendre en compte ?
Mais il faut aussi prendre en compte la dégradation des conditions faites au travail, l'accentuation des cadences, de l'intensification au travail. On est aussi le pays qui a la plus grande productivité par heure travaillée au monde.
Et donc on ne prend pas en compte l'augmentation de l'espérance de vie ?
Bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait imposer... Monsieur faisait ou le médecin tout à l'heure qui nous appelait, parlait du choix. Nous sommes attachés à ce choix. Créons des conditions de droit qui permettent à chacun de faire un choix. Tout le monde n'a pas le même rapport à son travail. Mmh. Il y en a qui sont particulièrement usés et leur dire, et il y en aura beaucoup demain dans les rues, et c'est à la fois normal et nécessaire, à qui demander 2 ans de plus alors qu'aujourd'hui on les licencie parce qu'ils ne suivent plus déjà les cadences arrivées à 56 ou à 57 ans, c'est les contraindre à voir leur pension diminuer ou à devoir accepter à un certain âge de prendre des petits boulots pour compléter le niveau de la pension qui sera la leur. Donc le choix, bien évidemment, mais acceptons de créer un cadre de droit qui permet à chacun de faire son choix à la fois par rapport à ses projets personnels, son rapport au travail, et tout le monde n'a pas le même rapport à son travail. Il y en a qui sont dans un rapport très intéressant, c'est un travail qu'ils ont choisi, ils sont motivés, il y a des travaux qui sont plus usants physiquement que d'autres, ça c'est imparable, et il y a d'ailleurs des accords dans certaines entreprises, pas nombreuses, mais il y en a pour reconnaître les métiers pénibles et les caractéristiques. Quand j'entends le gouvernement dire « on ne peut pas créer un cadre collectif qui reconnaisse les métiers pénibles », il n'y a pas de métier pénible. Il n'y a que des gens qui s'usent plus que d'autres à la tâche. Oui, le problème, c'est que puisqu'on parle d'espérance de vie, ceux-là, en moyenne, ils ont 7 ans d'espérance de vie inférieure aux autres. Donc, ils passent moins d'années de retraite aux autres. Et on ne peut pas accepter que ceux qui commencent à travailler souvent très tôt soient dans des métiers pénibles. Eux n'aient pas le droit à des années de retraite en bonne santé. C'est important aussi d'avoir des années de retraite en bonne santé.
Bernard Thibault de la CGT est l'invité de France Inter pour encore 5 minutes environ. Le standard d'Inter 01 45 24 7000. Joseph nous appelle de la région Rhône-Alpes. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Nous
oui,
vous écoutons.
Je vous appelle effectivement et je rebondis sur ce que vient de dire monsieur Thibault. Paradoxalement, c'est vrai qu'il y a des métiers pénibles et je les connais bien pour travailler dans le bâtiment. Mais que font les syndicats dans le bâtiment? Rien. Ils sont complètement absents. Hein. Ils sont complètement absents de la grande distribution. J'ai la fille d'un ami qui travaille dans un centre, Leclerc, qui va être inauguré demain, où il n'y a aucune prime, alors, contrairement à celui de La Rochelle, qui est à quelques kilomètres plus loin, aucune prime alors que les gens travaillent tous les dimanches pendant la saison, et pendant les jours de vacances scolaires, je crois, d'après ce que m'a dit mon ami. Donc, que font les syndicats? Eh bien, en fait, ils se battent pour ceux qui ont déjà plein d'avantages, qui ont la garantie de l'emploi. Hein. C'est leur business, c'est normal, évidemment. Plus il y a de fonctionnaires, plus le syndicat a de cotisations. Hein. Étant donné qu'ils protègent, ces gens-là sont complètement protégés. Je ne connais pas bien beaucoup de syndicalistes, mais je connais par exemple un cégétiste qui travaille chez EDF, eh bien... il contourne le compte électrique, voyez-vous, pour ses amis.
Et ça, bon, écoutez, on va arrêter de dénoncer tout le monde. Là. Merci, Joseph, de nous avoir appelé. Bernard Thibault.
Écoutez, je crois qu'on verra demain, dans les rues, encore une fois, qu'il y aura beaucoup de salariés du secteur privé. Et en même temps, sur ce que dit monsieur, d'une part, les syndicats... Alors, un, ne sont pas absents de la construction. Moi, j'ai fait un meeting avec 2000 personnes de la construction à Paris il y a 2 ans sur la question de la pénibilité. Alors, il est clair que les syndicats ne sont pas suffisamment présents dans les entreprises du privé dans notre pays. Mmh. Je serais le premier à le reconnaître et, comment dire, à le déplorer. Dans le commerce, il y a une action très spectaculaire qui avait marqué les esprits il y a 2 ans sur le salaire minimum dans le commerce. Il y avait enfin tous les syndicats pour se mobiliser ensemble. Mais le taux d'engagement dans les syndicats dans le commerce de la part des salariés, c'est 1%. Les syndicats peuvent pas faire de miracle, ça n'existe pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Les syndicats sont des hommes et des femmes qui adhèrent à une organisation et qui décident, pour défendre leurs conditions de salariés, d'agir ensemble. Et en même temps, la réalité dans un secteur comme le commerce, par exemple, c'est que la répression syndicale, elle est omniprésente. Allez diffuser un tract dans une enseigne du commerce. Allez revendiquer de vous porter candidat aux élections professionnelles. Il y a beaucoup d'endroits, malheureusement, c'est prendre le risque tout simplement pour son emploi. Pourquoi l'emploi est si précaire dans le commerce? Et nous avons des employeurs qui utilisent, par exemple, les étudiants. Vous prenez des grandes enseignes. Je ne vais citer personne,
bon,
soit de la publicité dissuasive, mais il y a certaines grandes enseignes du commerce où la durée de présence de la main-d'œuvre est en moyenne de 18 mois. Et majoritairement composé d'étudiants. C'est très difficile à organiser pour concevoir des droits sociaux qui perdure, puisque c'est par définition une main-d'œuvre qui est, comment dire, de passage.
Dernière question au Standard d'Inter. Hervé nous appelle de la région de Lyon, je crois que c'est ça. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour monsieur. Monsieur Thibault, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je souhaitais faire grève demain. Je précise que je travaille dans le transport en commun. Or, la direction a sorti une note de service vendredi dernier, faisant référence au décret 1224 du 21-08, indiquant que pour faire grève, il fallait qu'un préavis soit déposé. Or, mon entreprise possède 4 syndicats. J'ai posé la question à 3 des 4. Et visiblement, ça n'a pas été déposé, quoi. Le préavis n'a pas été déposé. Alors, comment dois-je faire pour faire grève demain sans ce préavis?
Alors, Bernard Thibault, quand il y a un mot d'ordre national, est-ce qu'il y a besoin de préavis dans les entreprises?
Dans certaines, on touche là aux modifications concernant le droit de grève qu'a voté aussi cette majorité, en particulier, principalement pour les services publics, parce que je le rappelle, et nous avons d'ailleurs des coups de téléphone à ce propos, je rappelle que dans le secteur privé, il n'y a pas besoin de préavis de grève, sauf pour des entreprises, et c'est le cas d'entreprises de transport en commun qui ont des missions de service public, où là, il y a une procédure d'alerte qui doit être déposée avec un délai. Donc le mieux, c'est de regarder précisément, donc peut-être qu'avec avec les services d'Inter, je pourrais avoir vos coordonnées, parce qu'il y a quand même plus de 70 réseaux de transport en commun où les procédures ont été respectées, les préavis de grève ont été déposés, il n'y a absolument aucun problème de légalité. Donc il faut quand même vérifier que monsieur qui souhaite faire grève est dans un réseau où la procédure a été respectée. Mais je rappelle et j'insiste, pour les autres entreprises, et il y en a beaucoup, dans la mécanique, dans la chimie, dans le commerce, et il n'y a pas besoin de préavis de grève pour décider d'arrêter le travail et de participer aux manifestations de demain.
Un tout dernier mot,
oui,
Philippe
Lefébure.
Oui,
le 15 septembre, ça sera la prochaine journée de mobilisation, le 15 septembre.
J'ai déjà posé la question.
J'en sais rien. Je suis admiratif.
Je rappelle, il y a eu une alerte sociale à la SNCF le 15 septembre.
Je suis admiratif de tous ces chroniqueurs que je lis ce matin ou que j'écoute, qui savent que le gouvernement bougera pas, le mouvement va être de tel niveau, que le prochain rendez-vous, ça va être ceci.
Alors, on ne sait pas si le gouvernement ne bougera pas, mais c'est ce qu'il répète à longueur d'antenne.
Oui, vous avez des idées, des dates en tête.
Bien sûr qu'on réfléchit avec l'ensemble des autres syndicats. Les syndicats ont une réunion mercredi pour naturellement évaluer précisément ce qui sera passé demain, pour écouter le gouvernement, ses représentants, d'où qu'ils viennent ou quels qu'ils soient, pour voir ce qui va être dit à cette occasion et envisager des suites. Et à partir de là, tout peut être ouvert. Beaucoup va dépendre, encore une fois, du degré de mobilisation. Donc, soyons très très nombreux dans les rues de demain.
Merci Bernard Thibault d'être venu ce matin.
Merci
au micro de France Inter. 9h dans 4 minutes. On accueille dans un instant Sophia Aram.